Il est midi 4 sur France Inter et c'est l'heure de retrouver Questions politiques avec Thomas Snegaroff.
Bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous politique du dimanche de France Inter, de France Info, à la télévision en partenariat avec le journal Le Monde. Celui qui a accepté notre invitation jusqu'à 13h a été socialiste avant d'être l'un des premiers à suivre Emmanuel Macron participant au lancement d'En Marche en avril 2016 avant d'être réélu député sous les couleurs du parti présidentiel en 2017. Sa fidélité totale à l'égard du président de la République, pour lequel il évoque une fascination avec une dimension amoureuse, est récompensée par le poste de ministre de l'Intérieur en octobre 2018, une expérience qui s'achèvera en juillet 2020 sur fond de forte défiance des policiers et après la gestion pour le moins musclée de la crise des Gilets jaunes. Redevenu parlementaire, il devient président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, poste qu'il occupe aujourd'hui. Alors à 4 mois et quelques jours du premier tour de la présidentielle, quel bilan fait-il d'un quinquennat marqué par de nombreuses crises? Les députés LREM n'auront-ils été que des godillots? La nomination de Valérie Pécresse comme candidate des Républicains est-elle une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron? Enfin, alors qu'Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon tiennent meeting cet après-midi, attaquant de droite comme de gauche le président, n'est-il pas temps pour lui d'entrer pleinement dans la campagne? Ces questions et bien d'autres, nous les poserons à notre invité avec nous en direct jusqu'à 13h. Christophe Castaner, c'est lui, est l'invité de Questions politiques.
Questions politiques. Thomas Snegaroff sur France Inter.
Bonjour Christophe Castaner.
Bonjour.
Pour vous poser des questions, je serai comme chaque semaine en compagnie de la grande bande de questions politiques. Avec cette semaine, un grand visage de France Télévisions, Nathalie Saint-Cricq. Bonjour Nathalie. Françoise Fressoz, une grande plume du Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour à tous.
Et Karine Bécart, une grande voix de France Inter.
C'est sûr. Salut tout le monde.
Salut. Tout à l'heure, une autre grande voix de France Inter, Alexandra Metzen, viendra vous poser des questions d'économie. Et le hashtag #QuestionPol pour poser les questions et donner les commentaires, notamment pour notre invité, qui, j'espère, n'a pas trop la pression. Il doit être grand aussi aujourd'hui.
Vous savez, il ne faut pas vivre avec la pression, mais il ne faut jamais négliger cette part de pression. C'est peut-être celle qui, justement, vous rappelle nos fragilités. Et on en a tous. La France en a, nous en avons. Et c'est à partir de ces fragilités qu'on doit se battre pour améliorer notre quotidien.
La droite républicaine est de retour. Alors, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Valérie Pécresse, investie hier par les adhérents de son parti, les Républicains. Ce sera donc elle que Emmanuel Macron devra affronter au premier tour le 10 avril prochain. Et dans son discours de victoire, Valérie Pécresse n'a pas été tendre du tout avec le président de la République.
Je ne serai pas une présidente du zigzag et de la godille politique qui dit à chacun ce qu'il a envie d'entendre. Emmanuel Macron n'a qu'une seule obsession, c'est plaire. Moi, je n'ai qu'une seule passion, c'est faire.
Alors, obsession, passion, vous lui répondez quoi à Valérie Pécresse?
Qui est-elle? Qui est-elle vraiment au terme de cette primaire interne? Je rappelle que François Fillon avait été désigné comme candidat LR avec 4 millions d'électeurs. Là, la candidate des LR a été élue avec quelques dizaines de milliers de voix, autant que Monsieur Poisson, qui était candidat à l'époque à la primaire interne. C'est ça la réalité d'une droite qui est rabougrie, qui est retrécie et qui est extrême droitisée. Mais à l'écouter, je pense qu'on ne parle pas du même président de la République. Ce qu'incarne Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est une France qui est dans l'adversité, et il ne faut pas le nier parce que les Français le voient bien, mais qui dans cette adversité peut porter une forme d'optimisme, d'engagement, de ne jamais abdiquer pour que notre pays aille mieux, quand au fond, la droite, et on le voit bien, nous propose une France rance, une France sombre, avec l'éternel discours du déclin, ça va mal, ça va mal, ça va mal. Oui, il y a des difficultés, mais n'abîmons pas la France par un discours aussi brutal et aussi cynique.
Alors, mais la notion de séduction... Au fond, plaire à tout le monde. Est-ce que ce n'est pas une des failles d'Emmanuel Macron aujourd'hui?
Vous savez, quand on a réformé en profondeur la réforme de la SNCF, on ne cherchait pas à plaire à tout le monde, on cherchait à sauver la SNCF. Je vous dis cela parce que c'est, je crois, la dernière grande manifestation que ce pays ait connue, 340 000 personnes, nous étions au printemps 2018. Et sur tous ces sujets, nous avons osé faire des choses qu'aucun gouvernement n'avait fait jusqu'à présent. Pas pour plaire, mais pour réparer la France.
Alors malgré tout, elle est une femme, elle est réformatrice, elle a plutôt le sens de la répartie, elle a envie de s'en prendre au déficit. Est-ce que malgré tout, cette Valérie Pécresse n'est pas le pire des scénarios pour Emmanuel Macron?
Non, vous savez, d'abord, quand vous êtes président sortant, vous ne faites pas votre activité quotidienne, celle de président, en fonction de vos adversaires.
Mais il a l'air d'observer ce qui se passe.
Non, mais je pense que ce serait une erreur que de construire une campagne pour celle que nous allons construire en fonction de nos adversaires. Nous avons un bidon, il faut le défendre, mais il faut aussi incarner et porter un projet, quelquefois en rupture, pour la prochaine présidentielle. Et donc, Valérie Pécresse a des qualités indéniables. Elle a aussi été ministre du budget, qui a augmenté la TVA de 5,5 à 7. Elle a été ministre d'un budget qui a mis en place la RGPP. Vous vous souvenez de la RGPP, celle qui a supprimé autant d'emplois dans les hôpitaux comme dans la police et la gendarmerie. Donc elle sera aussi tenante de son bilan. Elle a des vraies qualités et je ne les conteste pas. Elle est présidente de région. Elle est d'ailleurs élue à la région Île-de-France depuis 20 ans maintenant.
Mais est-ce qu'elle ne va pas aller récupérer l'électorat, les Républicains qui étaient venus chez Emmanuel Macron parce qu'elle est libérale économiquement, elle est régalienne. Est-ce que finalement elle ne va pas effectivement récupérer une partie de votre électorat? Est-ce qu'elle n'est pas dangereuse à ce point-là?
Écoutez, je ne sais pas si elle va récupérer une partie de notre électorat, la campagne le dira. Mais ce que j'ai vu pendant la primaire, c'est une Valérie Pécresse qui est tout sauf centriste dans son discours.
Mais vous, radical. Vous avez employé le terme extrême droitisé, ça veut dire quoi?
Ah, mais j'étais que globalement, cette primaire a montré qu'il y avait une dérive totale de la droite vers l'extrême droite. Ils ont couru pendant toute la primaire derrière Éric Zemmour. Et d'ailleurs, Éric Ciotti ne dit pas autre chose. Quand ce matin, dans la presse, il explique que de toute façon, Valérie Pécresse devra mener une campagne à droite de la droite, je vais vous dire ça en termes ciotistes, ça veut dire à l'extrême droite. Et effectivement, on peut poser des questions. Éric Ciotti nous a dit qu'il n'avait jamais voté Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Que fera Mme Pécresse si, d'aventure, elle n'était pas en situation d'être au second tour et que c'est Marine Le Pen ou Éric Zemmour contre Emmanuel Macron? Alors, on voit bien que ces deux droites qui étaient l'une républicaine et l'autre tournée vers l'extrême droite, sont en train de fusionner et de se tourner vers l'extrême droite. Je crains que, pour elle, ce soit une campagne difficile, mais au sein de son parti.
Justement, puisque vous avez l'air de dire que ce sont deux droites réconciliables et qui vont vers la droite et l'extrême droite, est-ce que vous aussi, vous n'êtes pas entraîné, je parle de la Macronie, vers cette droite? C'est-à-dire, en gros, on dit que la France est à droite. Quand on fait la somme des sondages des gens qui sont à l'extrême droite ou à la droite, on a l'impression que c'est majoritaire dans le pays. Est-ce que ça ne vous oblige pas à être plus fort sur la sécurité, sur le régalien, sur l'immigration, ou est-ce qu'au contraire, vous allez aller un petit peu plus vers la gauche pour qu'il y ait deux zones bien distinctes?
Deux remarques. D'abord, être fort sur le régalien et sur la sécurité, pour moi, ce n'est pas être de droite. Et je pense que la gauche aussi a besoin de
sécurité.
Alors,
l'extrême droitisation, quand vous dites ça, vous, quoi, vous faites allusion à... Quels sont les exemples d'extrême droitisation de la droite?
Je vais prendre un tout petit exemple. Mais quand Mme Pécresse, pour faire plaisir à ses électeurs internes, invente un concept où il y aurait des peines différenciées selon le territoire où vous habitez, pour viser au fond les banlieues et les jeunes des banlieues où ils auront des peines plus importantes que dans mes Alpes-de-Haute-Provence, je pense que c'est un contresens. Et qu'au fond, c'est nier toutes les valeurs de l'état de droit. Et ça va très loin. Et on pourrait faire la liste comme ça de ces expressions. Et c'est la ligne Ciotti qui, en ne faisant que 40%, mais 40% c'est énorme, va être la ligne de ce courant de pensée que portent les LR. C'est ça la réalité. Et nous...
Et vous, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça?
Et nous, la Macronie, entre guillemets, comme vous dites, ne doit pas se positionner entre cette droite ou cette gauche. D'abord, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait de dire la France est à droite. Oui, le score des partis de gauche est faible, mais pour une raison simple. C'est qu'une grande partie de l'électorat de gauche qui a voté François Hollande en 2012 a voté Emmanuel Macron en 2017 et reste fidèle à Emmanuel Macron.
Sans doute, mais ça ne fait pas non plus une majorité très forte pour le président de la République. Ça lui fait un socle important, mais pas une grosse majorité. Est-ce que vous ne regrettez pas, après coup, de ne pas avoir davantage structuré idéologiquement ce qu'on appelle la Macronie?
Je pense qu'il nous faut structurer, mais ça sort de la dimension d'un président de la République et du gouvernement, structurer une offre centrale politique majeure et qui aujourd'hui n'est pas apparue. Et c'est ce que nous essayons de faire avec Ensemble Citoyen, avec la Maison
Commune. Mais est-ce que vous n'avez pas pris un peu de retard?
Peut-être. Peut-être parce que de toute façon, on continue, y compris dans votre regard de journaliste, et je ne suis pas critique en disant cela, à chercher à qualifier telle mesure de droite, telle mesure de gauche. Je pense que les Français s'en fichent un peu de savoir si ça rentre dans un couloir identifié à droite ou dans un tiroir identifié à gauche. Ils attendent de nous de chercher plus de liberté. Moi, en quittant le Parti Socialiste et en rejoignant Emmanuel Macron, je vous le dis du fond du cœur, j'ai trouvé de la liberté. Celle d'arrêter de me poser la question de savoir si mon interlocuteur est de gauche pour savoir si son idée est bonne ou mauvaise, ou de droite pour savoir si elle est mauvaise ou bonne. Non, on a trouvé de la liberté, nos décisions ne sont pas marqué du sceau d'une idéologie quelconque, mais de la volonté de faire avancer le pays.
Mais du coup, ça donne un peu prise à ce que dit Valérie Pécresse, le zigzag.
Oui, parce qu'elle est à droite-droite tout le temps. Je pense que ça n'est pas la ligne dont le pays a besoin.
L'autre fait politique de la semaine, c'est l'entrée enfin en campagne officielle d'Éric Zemmour. Son clip de campagne était beaucoup commenté. Le slogan de campagne, on le connaît, impossible n'est pas français. On attend le nom du parti et son logo. Ça sera cet après-midi lors du grand meeting de Villepinte. Quel est votre regard sur cette entrée en campagne? Est-ce qu'elle change tout? Est-ce qu'elle bouscule les équilibres politiques du moment?
D'abord, elle a le mérite de la vérité. Il est enfin candidat, ce que nous savions tous, mais il le faisait en se cachant derrière son miroir. Et du coup, en refusant de répondre à toutes les questions politiques. Parce qu'au fond, il est dans un constat. Mais il n'est pas dans la proposition. Ce qu'on attend d'un candidat, c'est qu'il constate l'État. Et il a son regard qui n'est pas le mien. Mais ensuite, de faire des propositions. Pour l'instant, il n'en a aucune, si ce n'est la stigmatisation et l'amalgame. Quand il nous explique qu'il fait la différence, qu'il fait pas la différence entre islam et islamisme, pour moi, ça relève de l'amalgame. Et en plus, c'est une faute d'analyse basique d'un pays qui est laïque et qui respecte l'ensemble des religions. Aujourd'hui, il y a une clarté de ce côté-là. Mais de toute façon, c'est une clarté dans sa candidature, mais ça reste quand même un boubiguba de pensée. Son clip de lancement de campagne, où c'est à la fois De Gaulle et à la fois Pétain. Moi, j'ai le sentiment que ça n'est pas compatible. Lui, manifestement, trouve qu'on peut mélanger les deux.
Il en perd de vitesse ou pas?
Je ne sais pas. Et ça aussi, de toute façon, ça n'a pas beaucoup de sens. Les sondages d'aujourd'hui ne disent pas l'élection présidentielle.
Mais quand
Ce que je note, c'est que globalement, l'extrême droite dans ce pays est forte. Et elle était à 32-33 il y a 6 mois uniquement avec Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan dans les sondages. Aujourd'hui, les équilibres ne sont pas bouleversés. L'extrême droite reste à 32-33, mais avec un acteur nouveau qui est Zemmour et qui prend en partie sur les LR et beaucoup sur Marine Le Pen.
Est-ce que ce chiffre 32-33, peut-être même 35% pour l'extrême droite, c'est à mettre au bilan d'Emmanuel Macron?
Non, parce que c'est pas nouveau. Je crois me souvenir qu'en 2002, un candidat du Front National était au second tour de l'élection.
Pas avec 35%.
Vous avez raison sur le volume, mais quand Lionel Jospin était écarté dès le premier tour, ce phénomène n'est pas nouveau et ça fait partie de nos échecs collectifs. Parce que ceux qui votent vers l'extrême droite ne sont pas des femmes et des hommes qui sont des fascistes. C'est vraiment pas le propos. La réalité, ce sont des femmes et des hommes qui sont inquiets. Il y a dedans une part de gens qui peuvent être racistes, mais ce sont des femmes et des hommes qui sont inquiets, qui ont peur de la mondialisation. Et donc, nous n'avons pas réussi à les rassurer. On a corrigé des choses. Quand aujourd'hui, les investissements étrangers sont beaucoup plus nombreux en France, que nous sommes le premier pays en termes d'attractivité de toute l'OCDE, c'est une bonne nouvelle, y compris dans ce combat contre la mondialisation. Mais il reste beaucoup de chemin à faire.
Vous parlez beaucoup économie, mais au fond, quand vous dites les Français sont inquiets, il y a ce problème de l'identité. L'identité nationale, au fond, c'était le sujet autour duquel Nicolas Sarkozy tournait autour de 2007. Est-ce que vous pensez que le pays n'arrive pas, au fond, à trouver une réponse collective sur cette question d'identité? Vous pensez que c'est un faux débat? Comment vous jugez la chose?
Je ne sais pas si c'est un faux débat, mais je sais que quand je fais du terrain et je fais un tour de France en ce moment, et puis il m'arrive, j'ai réussi à passer quelques temps dans ma circonscription jusqu'à hier avant de vous rejoindre, on ne me parle pas de ça. Au fond. Par contre, on me parle de cette entrée de Joséphine Baker au Panthéon. Parce que les Français ont trouvé que ça avait de la gueule, comme on dit.
Mais est-ce qu'il n'y a pas de France dans ce que vous dites, au fond?
Non, il y a peut-être une France instrumentalisée par un groupe politique qui, aujourd'hui, sur ces sujets, veut hystériser le débat. Mais notre France, elle est multiculturelle. Elle a toujours été ainsi. Et ceux qui veulent nous opposer une sorte de nostalgie de la France de l'époque du noir et blanc, je repense au clip de M. Zemmour pour son lancement de campagne, la réalité, c'est que la France, elle est faite de couleurs aussi.
Donc il n'y a pas de problème quand
on vous écoute. Non, mais bien sûr que, attendez, vous dites ça à quelqu'un qui a mis en place une politique, par exemple, de reconquête républicaine dans les quartiers, qui a mis en place des sections départementales sous l'autorité des préfets dans tous les départements de France pour lutter contre les radicalisations. Et donc oui, j'ai jamais nié qu'il y avait ces réalités-là. Mais c'est un combat que nous devons mener. Mais on ne doit pas le mener en montrant des coupables. On ne doit pas dire tout ce qui ne me ressemble pas est un adversaire. Or aujourd'hui, on voit bien qu'on a une tension dans ce début de campagne où au fond, c'est moi contre tous les autres.
Mais il faut lui répondre à Éric Zemmour ou pas? Parce qu'on a le sentiment quand même que la classe politique globalement le laisse parler tout seul.
Moi, je n'ai cessé de tenter de lui répondre. Peut-être que ma voix n'a pas suffisamment porté, d'autres aussi. Non pas parce que Éric Zemmour est candidat, mais parce que ce qu'il porte, ce qu'il dit m'est insupportable. Parce que c'est pas parce qu'on est sexiste et raciste et que c'est totalement assumé l'air de rien que ça ne serait pas grave. Et donc oui, j'ai toujours considéré que ces propos, ces idées étaient mes adversaires politiques et je n'ai pas manqué de le rappeler à chaque fois que j'ai pu vis-à-vis de celui qui porte ces propos-là, Éric Zemmour.
Y a-t-il une stratégie au sein de la Macronie, bis, pour savoir quelle est l'attitude à adopter face à Éric Zemmour, sachant que, in fine, on se demande si ça serait pas mieux pour vous au deuxième tour de l'avoir?
Mais je sais que les politiques sont par naturel cyniques et que nous serions toujours dans ce calcul-là.
Non,
mais je vais vous dire, vraiment, du fond du cœur, je m'en fiche aujourd'hui, notre objectif, c'est quoi? C'est, si Emmanuel Macron est candidat, et je souhaite qu'il soit candidat, qu'il puisse porter, en assumant son bilan, la poursuite de la transformation en profondeur du pays. Il y a de grandes réformes dans ce pays que nous n'avons pas pu faire et qu'il convient de faire, j'en suis convaincu. Et donc, nous avons devant nous des objets politiques pour le pays qui sont plus importants de savoir qui sera notre adversaire au premier tour.
Une toute petite question.
Et au second tour, il n'y en aura qu'un.
Nicolas Sarkozy n'a pas pris parti, pour l'instant, ni pour sa famille politique. Il y a dans un livre de notre consoeur Nathalie Chu que l'idée que Sarkozy pour au dernier moment soutenir Emmanuel Macron, ça serait un cadeau pour vous ou un boulet?
J'en sais rien, mais vous savez, moi j'ai...
Vous avez réfléchi à la question.
Oui, mais... Enfin, je pense que de toute façon, son expression sera difficile dans tous les cas. Parce qu'on sent bien qu'il voit cette famille politique qui était la sienne ne plus correspondre à ce qu'il apportait. On voit qu'il trouve et il constate que beaucoup de réformes que nous avons faites pour le pays sont des réformes que, y compris lui, n'a pas réussi à faire et qu'il aurait aspiré à faire. Et donc il doit être dans le doute. Mais le doute est le sel de l'esprit, disait Alain.
Tout à l'heure, vous avez dit que c'était bien qu'Éric Zemmour soit rentré en campagne, au moins ça clarifiait les choses. Est-ce qu'il n'est pas temps que le président de la République en fasse de même ?
Non, je ne crois pas, parce que vous savez bien que du moment qu'il sera en campagne, il sera tourné vers la campagne. Or, la France a besoin d'un président, la France a besoin d'un exécutif. Si tous les problèmes que nous rencontrons, que nous allons rencontrer dans les semaines prochaines, suivantes à notre réunion, notamment sur la gestion sanitaire, devaient se suspendre, pourquoi pas ? Mais la réalité, c'est qu'il va falloir continuer à porter la France, et c'est le rôle du président.
Mais Monsieur Castaner, au fond, c'était un peu le pari de Nicolas Sarkozy quand il s'est représenté. La France a besoin de moi, il y avait
ça
la
pas
crise.
Marché, hein.
Et puis, ça n'a pas marché. En fait, en février, il est rentré en campagne et il n'a pas rattrapé le retard. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, le paysage présidentiel est connu, de rester en surplomb et de jouer de son rôle de président.
Et qu'il lui manque à la fin quelques semaines.
Moi, oui. Alors, si on fait de l'histoire, on se souviendra aussi que Jacques Chirac avait annoncé à quelques jours près, au même moment, sa candidature que Nicolas Sarkozy et François Mitterrand, beaucoup plus tard encore. Donc, moi, je sens qu'il y a une forme d'impatience. J'ai l'impression qu'elle est plus dans notre écosystème à nous, journalistes et politiques, et je me mets dedans, évidemment, que vis-à-vis des Français qui attendent du président qu'il fasse son boulot.
France Inter. Question politique.
Christophe Castaner avec nous jusqu'à 13h. Et son boulot, pour reprendre vos termes, c'est aussi de gérer la crise sanitaire. Vous l'avez évoqué il y a un instant. On est entré pleinement, malheureusement, dans la cinquième vague. On a un variant inquiétant, plus de 20 cas désormais Omicron en métropole depuis quelques jours. Demain se tient un conseil de défense sanitaire, un nouveau, énième conseil de défense sanitaire. Est-ce que, selon vous, il faut prendre des nouvelles mesures ? Avancer les vacances scolaires, par exemple, pour sauver Noël, d'autant plus qu'on commence à savoir que les enfants sont peut-être les principaux vecteurs de cette cinquième vague.
D'abord, le constat, celui que vous faites, d'une tension extrêmement forte, plus de 50 000 cas sur 24 heures, plus 60% en volume d'une semaine à l'autre. Et donc, on voit qu'on a une dynamique qui est extrêmement préoccupante. La cinquième vague est beaucoup plus forte que la quatrième vague. Et donc, il faut agir sur ce sujet. 2000 personnes en réanimation aujourd'hui. Ce que l'on constate, c'est que nous avons aujourd'hui une réponse. C'est le vaccin et le rappel du vaccin. Et qu'aujourd'hui, nous devons faire en sorte, et dans les mesures sur lesquelles le gouvernement avec le président travailleront demain, et j'ignore quelles sont ces mesures, je préfère être franc avec vous et ne pas spéculer avec vous, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut restreindre au maximum le virus, et ce sont des mesures de freinage, toujours en ayant en tête de restreindre au minimum toutes les contraintes sur nos libertés. Et c'est la stratégie qui est la nôtre, qui est une stratégie plutôt gagnante jusqu'à présent. Et je le dis jusqu'à présent, parce qu'il y a une part d'incertitude sur ce sujet. Il y a un variant qui arrive, qui pour l'instant ne change en rien, parce que nous ne connaissons pas tout ce qu'on lui prête comme mauvaise intention. Je caricature un peu. Et donc aujourd'hui, c'est vaccination, rappel. Plus de 10 millions de personnes ont fait le rappel. Et il faut poursuivre sur ce chemin-là.
Alors, l'un des sujets, pardon, c'est ceux qui ne sont pas vaccinés. Alors, François Bayrou dit vaccination obligatoire. Vous, qu'est-ce que vous répondez ? D'autres disent transformons le pass sanitaire en un pass vaccinal. Autrement dit, vous ne pourrez avoir une vie sociale que si vous vous êtes vacciné. Quelle est votre préférence ?
Le mérite de la clarté.
Oui, le Parti socialiste, par exemple, préconisait ce sujet-là. Il a été discuté. On a fait un choix différent, celui de la conscience et de la responsabilité. Mais il y a effectivement aujourd'hui près de 10% de la population qui peut être vaccinée, qui ne souhaite pas être vaccinée. C'est une vraie anomalie et c'est une vraie irresponsabilité de leur part. Faut-il contraindre, obliger aujourd'hui, parce que nous avons un taux significativement élevé, ça ne me paraît pas nécessaire.
Sauf que les 2000 personnes qu'on trouve en réanimation, dont on parlait à l'instant, c'est quand même des personnes qui, dans la très très grande majorité, n'ont pas été vaccinées. Donc c'est eux qui font peser le poids le plus lourd à l'hôpital.
77% des hospitalisations. Merci. Avec un personnel hospitalier qui est désespéré.
Et qui n'en peut plus.
De se tuer au travail à cause d'irresponsables.
Déjà, je vais confirmer votre analyse. Juste, et je me sers de ce micro pour continuer à porter cette parole de conviction. Vous avez 12 fois moins de risques si vous êtes vacciné, 12 fois moins d'avoir une forme grave et donc d'hospitalisation et ou de réanimation sur ce sujet. Ensuite, vous savez, on peut pas dire tout et son contraire. Il y a quelques semaines, nous étions dans l'hémicycle quand les LR nous refusaient le maintien du pass sanitaire. Puis quelques semaines plus tard, d'autres nous proposent, y compris les candidats d'ailleurs, à contrario de ce que leurs députés nous disaient à l'Assemblée nationale, proposent et n'excluent pas la vaccination obligatoire. Si ça doit vraiment, à un moment donné, monter en puissance, je ne suis pas hostile, mais je pense que sur un sujet aussi sensible, continuons à convaincre, continuons à réouvrir des centres de vaccination, pour le rappel, parce que certains ont été fermés, 50 ont été ouverts, 300 vont l'être, continuons à prendre des rendez-vous chez les pharmaciens, chez les docteurs, il y en a de disponibles, ce matin en préparant l'émission, j'ai été sur le site
Vite Ma Dose. Ça fait un an quand même que vous essayez de le faire. Donc
mais ça a plutôt bien marché. Ça a plutôt bien marché, parce que 90% des Français le font. Mais en même temps, cette semaine, j'ai fait d'autres émissions politiques. Et on me disait, ah oui, mais alors vous avez lâché, vous avez reculé, parce que en Martinique et en Guadeloupe, ils ont jusqu'au 31 décembre pour les professionnels de santé. À un moment donné, la conviction, c'est aussi le dialogue. Et donc, moi, je préférerais toujours être un homme de dialogue qu'un homme qui impose. Mais si à un moment donné, on s'aperçoit, y compris parce qu'on est une évolution du virus et qu'on a un risque sur les services de réanimation qu'il faut être plus dur, je soutiendrai des mesures plus dures.
Justement, vous qui privilégiez le dialogue, vous êtes aussi parlementaire, président d'un groupe. On a beaucoup entendu les autres groupes se plaindre de l'absence de débat parlementaire sur les mesures prises par l'exécutif. Demain matin, vous nous avez même dit, je ne sais absolument pas ce qui se dira demain matin au Conseil de défense sanitaire. Est-ce que ce n'est pas un petit problème démocratique ?
Vous savez, on a fait 11 lois depuis le début de la gestion sanitaire. On a fait des débats autour du Premier ministre, y compris sur la stratégie vaccinale qui est venue mi-décembre annoncer le programme et la stratégie vaccinale qu'il a tenue et que nous avons tenue jusqu'au bout. Et donc les débats ont été nombreux. Mais ce que je sais, c'est que les débats ont été irresponsables. Y compris quand ceux qui aujourd'hui disent « Ah mais on ne débat pas assez » étaient, il y a 3 semaines, totalement hostiles et ont voté contre le maintien du pass sanitaire comme possibilité d'être actionné par le gouvernement. Alors ça, c'est vraiment des figures de style, je dirais presque un peu des figures de faux cul, qui de toute façon, alors que les moyens de contrôle existent à l'Assemblée nationale, ne sont pas utilisés par nos oppositions et qui aujourd'hui veulent faire procès ou feu de tout bois. Soyons responsables et surtout, j'aimerais que nos oppositions soient cohérentes.
Mais donc vous dites, finalement, changeons rien, on a le vaccin, ça suffit, on a une épidémie qui s'envole, on a 52 000 cas journaliers supplémentaires, mais on tient la barre.
Vous m'avez pas entendu dire, ne changeons rien, je vous ai dit, je ne suis pas favorable aux vaccinations obligatoires tout de suite.
Oui, mais visiblement...
Et je vous ai dit, demain...
Avancer d'une semaine, par exemple, le départ...
Mais c'est une option, moi je ne veux pas vous donner mon avis, alors que de toute façon, si je vous donne mon avis, vous savez ce qui va se passer, on va penser que j'ai discuté avec le président de la République hier et que je vous préannonce quelque chose. Alors ça peut
être
un jeu,
mais
ça n'est
pas
le cas. Non, pas hier. Voilà, j'ai une réponse précise. Mais non, je vous dis... Je pense qu'il faudra des mesures de frein supplémentaires.
Des jauges,
il y a une
par
gamme,
exemple.
Les jauges, par exemple. Il y a une gamme dans ces mesures de frein que le Parlement a autorisé le gouvernement à utiliser. Il lui appartient de décider la graduation. Mais c'est globalement ce que nous avons fait depuis des mois. Mmh. Et cette graduation a plutôt porté ses fruits. Donc aujourd'hui, maintenons cela. Mais je vous le dis, restreindre au maximum le virus et restreindre au minimum les libertés.
J'y reviens parce qu'il y a plein de parents qui nous écoutent et plein d'enfants, peut-être, ou d'élèves. Les vacances scolaires avancées, comme en Belgique, c'est quelque chose qui est sur la table, vous l'avez entendu ?
Non. Mais je ne vous dis pas... Voilà, mais je n'ai pas eu l'occasion de discuter de ce sujet et je ne sais pas s'il y a des discussions sur ce sujet.
Les discothèques qui restent ouvertes, il faut bouger sur ça ?
Non, mais on peut faire toute une liste.
Allez, François Stressos.
Mais en même temps, j'ai le souvenir, par exemple, à l'Assemblée, ça c'était au début de l'été, mais j'ai le souvenir pendant les 10 textes précédents qu'à chaque fois, on nous proposait des mesures de dérogation aux mesures de contrainte. Et alors, l'amendement pour ouvrir les discothèques, celui-ci, je l'ai entendu depuis le début de la discussion.
Ça va être une campagne présidentielle sous Covid. Est-ce que vous craignez pas, au fond, un effet de lassitude des Français en disant « Président de la République a géré depuis quelques années cette crise qui n'en finit pas, on veut en finir ». Est-ce qu'il y a un risque ?
Les questions subsidiaires, avec aussi des meetings qui n'auront pas lieu, on le voit avec LR dans la semaine prochaine, une campagne sous cloche du Covid.
Oui, ou avec instrumentalisation du Covid, comme cet après-midi pour le meeting d'Éric Zemmour, où lui, il fait la promotion du fait qu'il n'y aura pas de contrôle du pass sanitaire à l'entrée. Je rappelle que c'est un principe constitutionnel, rappelé par le juge constitutionnel, mais il ne me semble pas inopportun d'essayer de protéger ceux qui viennent à nos meetings en demandant le pass et le masque. Bon, n'empêche, pour répondre à votre question, oui, c'est possible. Mais une chose est sûre, c'est que je n'en fais pas une lecture par rapport à la présidentielle. J'en fais une lecture d'épuisement des Français. Et je fais partie de cela.
Mais oui, mais on est en présidentielle, donc comment vous prenez en compte ce facteur et comment vous essayez de...
On ne lâche rien et on continue à gérer la crise au mieux. Et globalement, aujourd'hui, on voit que la France fait partie des pays qui ont bien géré la crise. Je sais les polémiques nombreuses, quand dans d'autres pays qui étaient très en retard sur certaines des mesures que nous avions déjà mises en place, étaient soutenues par leurs habitants, ils n'avaient pas de polémiques. On aime ces polémiques-là. Je sais le risque politique, vous avez raison. Mais notre objectif, c'est de toute façon de faire face à un virus, de vivre aussi avec ce virus et d'agir au quotidien pour prendre les meilleures décisions. Est-ce qu'elles sont toutes bonnes ? Vous savez, c'est comme dans toute action politique. Je n'en suis pas sûr. Et j'ai l'humilité de vous dire qu'on ne réussit pas tout et qu'on n'a pas tout réussi. Mais globalement, sur la gestion sanitaire, même le regard des Français est plutôt positif sur un gouvernement et un président qui ont pris les bonnes décisions au bon moment.
C'est aussi une question économique que le Covid a posée. Et on accueille Alexandra Ben-Saïd qui vient vous poser des questions sur cette gestion justement économique de la crise du Covid. Est-ce que le gouvernement l'a bien géré ? Est-ce qu'il reste des inquiétudes ? Alexandra Ben-Saïd, bonjour, c'est à vous.
Bonjour. Christophe Castaner. Alors, vous avez dit qu'il y aurait peut-être des mesures de freinage supplémentaires, même certainement. Le mot « jauge » a été prononcé. Les entreprises de l'événementiel revivent déjà les annulations en cascade. Le tourisme, l'association des traiteurs de France, vous en avez peut-être rencontré des traiteurs dans la circonscription que vous occupez, demande une aide immédiate au gouvernement. Est-ce qu'il faut dire que le « quoi qu'il en coûte » dont on a dit qu'il était arrêté début septembre, finalement, il faut le rétablir.
Alors, il a été arrêté globalement, parce qu'il n'était plus nécessaire. Mais les ministres, Bruno Le Maire en particulier, ont toujours veillé, secteur par secteur, avec les ministres compétents, à adapter des mesures. Et si on a effectivement des décisions sur les jauges, et que, par exemple, le secteur événementiel ne pouvait pas reprendre son activité ou la maintenir, nous maintiendrons notre politique qui est d'avoir accompagné celles et ceux qui étaient les premiers concernés par les décisions qui étaient prises pour protéger les Français. Et globalement, ce pays peut s'honorer de l'avoir fait dans de bonnes conditions, et je parle sous votre contrôle.
Donc on peut dire que ça va être du cousu main. Je pense néanmoins toujours à ces traiteurs, ils ont des petits extras hein, pour faire les réceptions, et en ce moment, ces petits extras perdent leurs heures de travail. Cette semaine, on a la réforme de l'assurance chômage, son second volet qui est mis en place. Ça veut dire qu'il va falloir travailler 6 mois sur les 24 derniers mois, au lieu de 4 mois précédemment. La question, au moment où il y a tant d'incertitudes, certitude sanitaire et donc économique devant nous, c'est est-ce que cette réforme qui durcit les règles, elle tombe vraiment au bon moment ?
Attendez, on peut partir d'une micro-situation, comme vous venez de l'évoquer, et dire, mais je pourrais même vous parler des saisonniers.
Je pense que dans le secteur de la restauration, on n'est pas dans le micro.
Vous évoquiez ma circonscription, je vais vous parler des saisonniers qui vont travailler sur les remontées mécaniques et qui ont ouvert dans ma circonscription depuis hier, à Chabanon notamment. Une fois que je vous ai dit cela, oui, il y a des tensions. Mais ce que je vois par contre au quotidien, ce que nous voyons et que vous voyez au quotidien, c'est que partout, il y a des offres d'emploi et il y a personne pour les pourvoir. Et ça, je le vois dans mes Alpes d'Haute-Provence, comme nous le voyons partout dans notre pays. Donc, on a fait une réforme qui est rentrée en vigueur progressivement, qui prévoit, par exemple, un bonus-malus pour supprimer les contrats courts et pénaliser les contrats courts. C'est rentré en vigueur dès le mois de septembre.
Ça sera appliqué seulement à partir de 2022 pour les entreprises. Ce qui se durcit là tout de suite, c'est vraiment pour les salariés.
J'allais y venir. Deux mesures qui sont rentrées en vigueur cette semaine. C'est le fait d'avoir travaillé 6 mois pour avoir son allocation sur les 2 dernières années. Et c'est le fait que si vous avez un salaire supérieur à 4 500 euros brut et moins de 57 ans, vous avez une dégressivité à partir de 8 mois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a des situations où la situation de chômage n'encourage pas à aller vers l'emploi. Et quand on a autant d'emplois vacants dans notre pays, il faut tout faire pour accompagner celles et ceux vers l'emploi. Alors, vous savez, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. Moi, je suis convaincu que trouver un emploi, c'est la meilleure mesure de pouvoir d'achat. Donc, nous le faisons, nous accompagnons, nous ouvrons des crédits de formation et donc, nous ne devons rien lâcher sur ce sujet.
C'est toujours cette philosophie que, finalement, les chômeurs ont besoin d'être incités. Vous dites, il y a des situations de chômage qui ne poussent pas à trouver un travail. Il y a donc des chômeurs... Allez, fainéants, paresseux.
Non, c'est pas mon propos et j'ai pas dit inciter, j'ai dit accompagner. Et j'avoue que je préfère être accompagné. Et aujourd'hui, Pôle emploi a la mission d'appeler l'ensemble des chômeurs longue durée, un par un, pour leur proposer du cousu main et un accompagnement, un besoin de formation, un besoin d'intégration dans l'entreprise, un emploi. Faisons-le.
Je passe à la situation de l'hôpital. Nathalie, tout à l'heure, le disait, il y a des soignants qui disent qu'ils sont en détresse. Ils ont manifesté par milliers hier dans la rue. Quand vous les entendez, ces soignants, alors que vous avez mis 19 milliards avec le Ségur de la Santé, alors que vous avez mis 10 milliards sur la revalorisation salariale, vous vous dites quoi ? Vous dites, on a quand même raté quelque chose, il manque quelque chose, malgré les milliards ?
Oui, on a raté quelque chose, mais à quelle échelle de temps ? Le mal est ancien, nous le savons. Je vais vous parler du numerus clausus qui a été mis en place en 71 dans notre pays. Vous savez combien il y avait d'étudiants en médecine en 1967 ? 59 800. 59 800 futurs médecins qui étaient étudiants en médecine. En 1967, 1971, on met en place le numerus clausus. En 1993, on est descendu à 3500 médecins formés. On est passé de 59 800 à 3500. On a fait remonter ce chiffre. Pour cette année, on est à 10 700 futurs médecins, mais ça prend du temps. Donc oui, vous l'avez dit, on a agi à la fois sur la valorisation par le salaire de ces professions, on a agi par l'investissement dans les infrastructures, partout. J'étais la semaine dernière dans l'Hérault. On met 250 millions d'euros sur le CHU de Montpellier, mais on met 15 millions d'euros sur l'hôpital de proximité de Lunel.
Mais pourquoi vous les voyez encore dans la rue ? Ils le savent, ah, ils le vivent pour certains déjà, puisque l'argent commence à arriver. Pourquoi sont-ils dans la rue ?
Mais parce que les tensions restent extrêmement fortes. Au moment où on se parle, il nous manque 7500 infirmières pour arriver à pourvoir toute l'offre. Mais on n'invente pas des infirmières comme ça. Vous savez, ce que la France a fait, comme d'autres pays, c'est d'aller chercher des professionnels de santé dans les pays voisins. On s'est comporté un peu comme des voyous. On a pillé aussi un certain nombre de pays voisins. Et aujourd'hui, la France, d'ailleurs, et nos médecins sont sollicités par d'autres pays pour partir chez eux. Mmh. Il faudra faire plus. Et pour répondre simplement à votre question, on a fait beaucoup. Il faut du temps, il faudra faire plus encore.
Et Christophe Castaner, quand vous dites le problème n'est pas nouveau, en effet, le problème, les parlementaires ont sans doute une responsabilité également. Tous les ans, en tout cas c'est ce que disent les manifestants, tous les ans, les parlementaires, ils votent les objectifs de dépenses de santé. Et ils votent, depuis 10 ans, des objectifs de dépenses de santé manifestement trop bas au regard des besoins. Et ensuite, il faut faire des économies. Les manifestants, je les cite toujours, disent bah « là on serre la vis à l'hôpital public et pas à la médecine de ville parce que c'est plus facile de serrer la vis à l'hôpital public ». Est-ce que ceux qui parlent ainsi, ceux qui sont dans la rue, ont raison ? Est-ce que ça aussi, ça doit changer ?
Alors d'abord sur l'ONDAM, parce que c'est de cela dont
on
parle.
Merci, je vous le laisse.
Mais ça me permet moi de raccourcir sur l'ONDAM. On a fait des efforts significatifs ces dernières années. Mais si je reprends par exemple mon chiffre de 7500 infirmières qui nous manquent, ça n'est pas parce qu'il n'y a pas de l'argent pour les payer. C'est parce que nous n'avons pas les infirmières. Et enfin, n'opposons pas la médecine de ville et la médecine de l'hôpital. Et n'opposons pas le privé et le public sur ces sujets.
Je pense pas qu'ils veuillent les opposer. Je pense qu'en réalité, ils vous disent non. C'est parce qu'à nous, vous nous avez serré la vis. Ils ne cherchent pas à opposer, ils cherchent à mieux articuler.
Les médecins généralistes ont le sentiment qu'on n'a pas revalorisé l'acte depuis suffisamment longtemps et que du coup, le métier n'est pas suffisamment attractif. Et puis des fois, on prend des mesures. J'en prends une, par exemple. On a voté une proposition de loi il y a peu de temps pour plafonner le montant du coût par une boîte d'intérim d'un médecin à la journée, avec des chiffres qui sont assez effarants. Parce que quelquefois, on a de besoins dans l'urgence, et la seule solution, c'est un intérimaire. On avait prévu une mise en œuvre au 1er décembre, ou au 1er novembre. On l'a reporté dans sa mise en œuvre. D'ailleurs, pas totalement en conformité avec la loi que les parlementaires avaient votée, mais parce qu'on savait qu'on allait mettre dans l'impasse un certain nombre d'établissements. Moi, j'ai vu des cas jusqu'à 4000 euros la journée de médecin facturée pour un hôpital public. Et donc oui, il nous faut des réformes structurelles en profondeur, il nous faut des moyens. Et sur la santé, et je vais rejoindre ces manifestants, on a une approche de comptable. Vous savez, quand on a créé
vous
le numerus clausus...
Vous dites on a une responsabilité.
Mais bien sûr, et je me mets dedans. Et je ne cherche pas à dire... Je réaffirme qu'on a fait beaucoup et qu'il reste encore beaucoup à faire. Mais quand on a mis en place le numerus clausus, c'était quand même... À la fois, c'était post-68 et ceux qui connaissent le dossier savent qu'il y a une petite dimension politique vengeresse contre les étudiants en médecine de 68. mais surtout parce qu'on pensait que s'il y avait moins de médecins sur le territoire, il y aurait moins de dépenses parce que les gens iront moins voir le médecin et sûr, ils ne seraient pas là. Ce qui est quand même un peu couillon comme raisonnement. Mais c'est vrai qu'on a vécu cela. Et quand on a mis en place les ARS, quand on a mis à la tête des hôpitaux des professionnels de la gestion et pas des professionnels de santé, tous on a contribué à cette approche gestionnaire.
Allez, je passe à l'inflation, au pouvoir d'achat. L'indemnité inflation de 100 euros que vous avez votée, ça y est, c'est paru au Journal officiel. Ça va concerner 38 millions de Français. Mais, et là, alors je vais être très concrète, une mère célibataire qui gagne 2000 euros 10 euros net ne la touchera pas. Une épouse, donc il y a un conjoint qui a un revenu et qui, elle, touche un revenu de 1900 euros, bah, va la toucher. Donc l'indemnité inflation, nous a dit, c'est simple, c'est efficace, mais est-ce que c'est vraiment équitable ?
Ben c'est le plus simple aurait été de la donner à tous, mais c'était pas équitable. Et c'est pour ça qu'on essaie d'avoir des mesures, mais ça implique effectivement des chiffres. Et il y a toujours ce couperet où vous aurez pu me dire 2010, mais celle qui est à 1990 va l'avoir. Et l'essentiel des salariés sont en dessous de 2000, le grand essentiel, vous avez rappelé 38 millions, il y a un couperet. On a fait le choix effectivement de ne pas donner 100 euros à tout le monde, y compris à des gens qui gagnent 5000 euros par mois.
Mais là, le calibrage est large, la cible est large. Donc vous ciblez aussi des gens qui sont en couple et qui ont des bons revenus. L'un d'entre eux va toucher cette indemnité inflation.
Vous nous reprochez d'avoir ciblé trop large et de la donner à trop de Français. Je ne crois pas. Et donc, c'est toute la difficulté. Alors, ça, on l'a sur toutes nos politiques. Quand vous avez un effet de seuil, il y a effectivement... Il faudrait pour chaque politique avoir un lissage du seuil et dire à l'approche des 2000 euros, vous descendez vers zéro. Et voilà. Mais c'est extrêmement compliqué. Le Premier ministre a voulu une mesure simple et rapide. Elle est simple et rapide.
Christophe Castaner, on a beaucoup évoqué avec Alexandra Ben Saïd des lois que vous avez votées. Vous êtes parlementaire, je le rappelle, président de groupe LREM. Quelle est selon vous la loi qui restera de ce quinquennat ? Parce que précédemment, c'est souvent le cas. On a les 35 heures, par exemple. On a le mariage pour tous sous François Hollande. C'est quoi la grande loi d'Emmanuel Macron ?
Vous savez, je cherche ni grande loi, ni loi qui porte le nom de tel ou tel, parce que c'était un peu la tendance. Mais si je vous prends un seul exemple, parce qu'on a parlé tout à l'heure des chiffres du chômage, ce sont nos lois, au pluriel, qui ont été engagées pour réformer le travail dans le pays. C'était la première loi, avec la loi Confiance, qui a été votée au Parlement, promulguée à la mi-septembre, pour libérer le travail. Et ensuite, il y a eu toute une série de lois, y compris avec des risques d'être impopulaires. Quand, par exemple, on supprime de l'ISF l'investissement sur l'économie et donc sur l'emploi, on sait qu'on va avoir droit à un procès facile, et nous avons eu droit à ce procès facile. Mais c'est toute une série de textes qui font qu'aujourd'hui, on atteint un taux de chômage exceptionnellement bas, qu'on n'a pas connu depuis plus de 15 ans, et que la France est le premier pays en termes d'attractivité de toute l'OCDE. Et donc, ce sont ces lois-là sur le travail qui, à mon avis, seront des marqueurs de ce quinquennat. Mais peut-être que d'autres verront aussi des lois sociales comme la PMA pour toutes, que d'autres verront que le zéro reste à charge, comme on dit, c'est-à-dire le coût zéro pour les lunettes, les prothèses auditives et les prothèses dentaires, c'est une petite révolution que beaucoup ont rêvé faire et qu'ils n'ont jamais faite. Il y a comme ça de nombreuses suggestions que je pourrais vous faire.
On est à l'heure du bilan. Est-ce que vous avez un regret ? Est-ce que vous dites, au fond, il manque une loi qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas pu ?
Non, parce que je ne suis pas dans cette introspection-là, mais en même temps, je sais que nous n'avons pas tout bien fait. Mais ce que je sais, c'est qu'on a eu un quinquennat qui a été heurté par des crises majeures et que nous avons tenu bon. Et c'est ça, pour moi, qui est essentiel pour les Français, et que la France va mieux. Alors qu'on sort d'une crise, et notamment sur l'emploi, il y a 6 mois, vous m'auriez annoncé, j'aurais pas pu contester, 1 million de chômeurs supplémentaires à la rentrée cet automne. Bah, ça n'est pas le cas, parce qu'on a mis en place des mesures comme le quoi qu'il en coûte, qui ont été essentielles.
Et pour le mandat suivant, est-ce qu'il y a une philosophie générale ? Est-ce que c'est donnez-nous le pouvoir pour qu'on continue ce qu'on a commencé à faire ? Ou est-ce qu'il y a, on a oublié de faire ça, il faut vraiment s'y mettre ? Est-ce que par exemple, c'est une loi dépendance, une meilleure situation pour les personnes âgées ? Est-ce que c'est les retraites ? Il y a quelque chose qui pourrait nous donner un cap.
D'abord, je ne crois pas du tout qu'il faille porter une candidature pour continuer à faire la même chose. Ça n'a pas de sens. Y compris parce qu'il y a de grandes lois sur lesquelles nous sommes engagés. Des lois institutionnelles, par exemple, mais aussi des lois comme celle sur les retraites qui n'ont pas abouti et qu'il faut faire aboutir. Et donc, il faudra que ce quinquennat soit pas un quinquennat de continuité.
Mais qu'il soit un quinquennat. C'est-à-dire la rupture, c'est un peu l'idée aussi que reprend Valérie Pécresse. La rupture.
Ah ben c'est normal qu'elle soit en rupture.
C'est pas la même, à mon avis.
Elle était ministre il y a 10 ans et donc évidemment voilà. Mais moi je pense que de toute façon le candidat, si Emmanuel Macron est candidat, Emmanuel Macron devra porter un projet qui soit aussi un projet fait d'un certain nombre de lois importantes dont le pays a besoin.
Alors, on en a fait. Lesquelles ?
Non mais vous en avez cité quelques-unes.
Qu'est-ce que vous aimeriez
chaque chose
porte.
En son temps. Moi j'aime prendre.
Est-ce que vous vous dites par exemple les gens dont parlait Alexandra, les soignants, il faut vraiment qu'on mette le paquet financièrement pour pouvoir leur donner envie de rester. Est-ce que vous vous dites ce sont les personnes âgées ? Est-ce que vous vous dites je sais pas quelque non, chose sur, qui soit
sur,
un peu
sur tous ces sujets, je pourrais tenter de vous donner un éclairage qui n'est pas forcément celui que portera Emmanuel Macron. Mais par exemple sur la santé. Je pense que beaucoup a été fait sur la valorisation des salaires, sur les infrastructures hospitalières, mais qu'il faut aller plus loin sur la gouvernance et sur l'organisation même de l'offre publique de soins dans notre pays. Et j'intègre à l'intérieur les médecins généralistes.
On a le sentiment, quand on vous écoute, que finalement, à 4 mois de la présidentielle, en tout cas du premier tour, parce qu'on est déjà à 4 mois, rien n'est prêt, rien n'est écrit, il n'y a pas de programme. Je vous assure que c'est vraiment l'impression que ça donne.
Non,
donc rassurez-nous, vous êtes en train de travailler ou il y a juste Emmanuel Macron qui viendra avec ses idées et derrière le parti suivra.
J'aimerais pouvoir vous rassurer et je pense que je pourrais vous rassurer et que vous me faites confiance pour cela. Si Emmanuel Macron est candidat, les choses sont prêtes pour qu'il puisse conduire une campagne présidentielle.
Mais il n'y a que lui qui va décider de ce qu'il y aura dans son...
Il n'y a que lui qui décidera s'il est candidat ou pas. Par contre, je peux vous dire
qu'il y a des gens qui vont travailler autour de lui.
Il y a bien sûr de nombreuses personnes qui travaillent aujourd'hui en lien avec les différents partis politiques de la majorité présidentielle. Et sur tous ces sujets, si je ne m'aventure pas à les mettre sur la table, c'est tout simplement parce que je pense que nous avons une responsabilité, là, maintenant. C'est de défendre le bilan. On a une différence avec d'autres, c'est que nous sommes sortants. Je fais un tour de France aujourd'hui et j'essaye d'aller un peu partout en France. D'autres de la majorité le font aussi pour défendre, expliquer, expertiser, entendre les critiques sur ce bilan pour préparer la suite.
Mais quand on gagne une présidentielle sur un bilan ?
Mais on ne gagne pas une présidentielle sur un bilan, mais... Ne pas porter le bilan, c'est ne pas assumer ce que l'on doit aux Français. Et donc, même si ce n'est pas bankable, moi, j'assume de le faire. Alors oui, c'est moins sexy, c'est moins intéressant, c'est moins facile avec des journalistes qui, évidemment, sont impatients, et c'est légitime, et veulent la suite. Mais je pense qu'on a aussi cette responsabilité-là de porter un regard critique, mais de défendre aussi un bilan dont les parlementaires de ma majorité peuvent être fiers.
Justement, les parlementaires de votre majorité, vous, vous êtes un homme politique professionnel, si vous me permettez l'expression.
Oui.
C'est pas une insulte, hein, c'est une réalité. Il y avait beaucoup de gens de la société civile. Certains ont annoncé que un mandat, ça suffisait, ils étaient épuisés, ils avaient envie de revenir dans la vraie vie, même si c'est peut-être aussi la vraie vie au Parlement. Quel est votre sentiment sur ce groupe qui s'est constitué un peu de briquet de broc il y a 5 ans?
Alors d'abord, il est tout sauf un groupe de godillots, je reprends votre expression tout à l'heure, je sais que ce n'est pas la vôtre. C'est notamment le patron de la France Insoumise qui a décidé de nous appeler ainsi, alors que dans son groupe, je vous invite à regarder la cohérence absolue de la totalité de son groupe. Ils ont toujours voté comme un seul homme, Jean-Luc Mélenchon, et ils ont toujours voté contre. Là, en matière de godillots, franchement, il y a une exemplarité du vote.
Mais ils ne sont que 17.
Ah oui, mais enfin, ça fait 17 contre à chaque fois.
Mais ils ne sont pas nombreux. Quand on est 270, c'est un peu plus compliqué.
Oui, et à chaque fois, vous remarquez qu'il y a de la diversité dans mon groupe. J'ai porté le débat cette semaine sur un texte important, l'IVG, avec notamment la prorogation de 2 semaines. Il y a eu des avis divergents dans mon groupe. Et j'assume cela. Pourquoi ? Parce que, et vous l'avez dit, il y a 5 ans, cette majorité, elle est constituée de femmes et d'hommes qui avaient 1000 visages différents, qui n'étaient pas des professionnels, comme je le suis, et qui étaient des infirmières, des médecins, des avocats, des ouvriers, des agriculteurs. Et ils ont porté ce regard-là, quelquefois avec une maladresse d'expression. Alors on leur a fait un procès, mon Dieu, c'était terrible. Ce que je sais, c'est que pendant 5 ans, ils n'ont rien lâché. Ils ont bossé, qu'on a eu des discussions, qu'on a quelquefois des divergences, qu'on a des horizons politiques dans notre majorité assez larges et qu'on n'a pas un prêt-à-penser qui serait livré et qui s'imposerait à tous. Non. Et comme président de groupe, j'assume parfaitement quelquefois qu'il y ait des désaccords de vote au sein de mon groupe.
Et dans votre majorité aux 1000 visages, vous avez parlé, le 1001e visage d'Édouard Philippe, il sera sur quelle ligne ? Et finalement, est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre lui et Valérie Pécresse ?
J'ai été son porte-parole, mais comme porte-parole de gouvernement, je ne suis pas son porte-parole aujourd'hui pour Horizon, parti où je ne suis pas.
On n'a pas l'impression que ça aille très bien avec Emmanuel Macron.
Mais je sens bien le sens de votre formule, mais je la corrigerai. Il n'est pas le 1001e visage. Il est dans ses 1000 visages. Il a été le chef de la majorité parlementaire. Et évidemment, il reste cet homme qui nous a guidés, qui nous a éclairés, qui m'a appris, moi, comme ministre à ses côtés. Et donc, il apporte quelque chose. Ensuite, oui. Il vient de la droite, il l'assume, et il est attaché à des sujets de droite. Il les porte. Et en même temps, quand il dit mais il faut tout faire pour redresser les comptes publics, c'est pas être de droite que de
non,
dire...
Non, mais j'ai demandé ces différences avec Valérie Pécresse.
Ah, mais ça, je lui laisserai le soin de les préciser. Mais je veux dire, elles sont nombreuses. La première, c'est peut-être la cohérence. Et aujourd'hui, quand il est candidat... quand il crée son parti politique...
joli lapsus.
Là, je sens qu'elle va sortir.
Elle est là.
Coucou le bêtisier de mon lapsus. Bon, quand il crée un parti politique, il le crée sur une politique claire qui est parfaitement en continuité du travail qu'il a fait comme Premier ministre d'Emmanuel Macron. Ah, mais il n'est pas Macron compatible. Il a été un Premier ministre loyal et fidèle et il est aujourd'hui un soutien loyal et fidèle.
Vous venez de la gauche. pour rester, je pense, fidèle aux valeurs de gauche. Est-ce que vous n'êtes pas un peu frustré de dire, au fond, l'homme qui arrive, c'est Édouard Philippe, il structure son parti, et nous, qu'est-ce qu'on a structuré pendant le quinquennat ?
Mais attendez, la maison commune, Édouard Philippe en fait partie, nous sommes en train de la structurer. Le mouvement La République En Marche, le travail quotidien que je mène, moi, comme président de groupe à l'Assemblée, mais depuis un an et demi, avec le MoDem, pour ce qui me concerne, avec le MoDem et avec Agir, c'est ça que nous avons structuré. Et donc moi, je ne suis pas mal à l'aise et je ne suis pas gêné de voir d'autres partis politiques soit se constituer, soit nous rejoindre, et c'est le cas aujourd'hui. Vous savez, je préfère être dans la situation de ceux qui rassemblent, c'est notre cas, plutôt que de voir les divisions multiples et variées qui existent à droite, on l'a vu chez les LR, à peine la nomination de Mme Pécresse au sein de son congrès, il y a des leaders de sous-courant qui commencent à partir chez Zemmour. Et à gauche, on voit l'éclatement total de l'offre politique.
Vous venez du Parti Socialiste, hein, vous avez longtemps été militant, adhérent, maire de Fort-Calquier sous l'étiquette PS. C'est quoi votre regard sur la campagne d'Anne Hidalgo ?
Je ne la comprends pas, tout simplement.
Est-ce que vous ne comprenez pas ?
Attaquer en disant doublement des salaires pour les professeurs d'éducation nationale et puis le soir à la télé dire bon ben alors finalement on va élargir aussi au personnel de santé parce qu'il n'y a pas de raison. Je ne sais pas à qui elle parle et d'ailleurs je ne l'entends pas et je pense que les Français non plus.
Est-ce que vous en bénéficiez de cette faiblesse de la gauche, du total gauche, même si on met Jean-Luc Mélenchon dedans, Yannick Jadot, est-ce que ça vous désespère sur le fond que la vie politique ait été explosée à ce point-là?
D'abord, elle l'est depuis plusieurs années. Si François Hollande ne s'est pas représenté, je veux bien qu'il théorise que c'est la faute d'Emmanuel Macron. C'était peut-être la faute d'un empêchement dans lequel il s'était mis lui-même. Et la gauche était déjà très éclatée à ce moment-là. Moi, je le regrette parce que je pense que la gauche est utile au débat. Mais sur quelle ligne politique ? Est-ce que c'est celle de l'opposition systématique, comme je l'entends dans la bouche des responsables du Parti Socialiste notamment ? Ça n'a pas de sens. Prenez la mesure du dédoublement de classe dans les quartiers les plus difficiles de France. Nous l'avons fait, la gauche en a rêvé. Prenez la mesure sociale sur les lunettes, les prothèses dont je parlais à l'instant. La gauche en a rêvé, nous l'avons fait. Et donc ce serait bien qu'ils n'aient pas un réflexe automatique d'opposition systématique. On voit bien qu'il y a une radicalité aujourd'hui dans tout le discours contre Emmanuel Macron. Que diable, adressez-vous à vos électeurs et parlez-leur. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas.
Alors elle, ce qu'elle dit quand même, c'est tenter de réhabiliter la social-démocratie en prenant l'exemple par exemple de l'Allemagne et de plusieurs voisins européens où au fond ce courant de pensée est en train de revenir. Qu'est-ce qui fait qu'en France la social-démocratie soit tellement en difficulté? Comment vous analysez, vous qui venez des rangs de la gauche?
Mais moi, je me retrouve comme social-démocrate dans l'offre politique qu'Emmanuel Macron conduit.
Et oui, je pense que beaucoup d'électeurs aussi. Les syndicats.
Beaucoup d'électeurs aussi. Oui, mais quand le président de la République porte et incarne le grand débat national, c'est aussi une forme de social-démocratie. Quand, et je regrette la façon dont ça s'est terminé, y compris par leur comportement, nous mettons en place une convention citoyenne sur le climat, c'est une forme de social-démocratie. Ministre de l'Intérieur, j'avais fait une convention citoyenne sur la question du rapport police-citoyenneté au sein même du ministère de l'Intérieur, en mettant 100 citoyens qui avaient été tirés au sort, qui venaient de toute la France, parce que c'est notre culture. Et cette culture, nous la retrouvons aussi.
Oui, vous mélangez démocratie horizontale et social-démocratie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Non, parce que l'émission ne suffirait pas à ce qu'on plaide sur la question de la social-démocratie. Mais au fond, est-ce que Anne Hidalgo, maire de Paris, est une social-démocrate quand au quotidien elle prend des mesures sans concertation au sein de Paris et sans aucun dialogue avec les maires des communes voisines du périphérique? Au fond, la vertu de la social-démocratie, c'est généralement toujours d'avoir prouvé ce qu'on était capable de faire avant d'en parler.
Et pour la démocratie, tout simplement, est-ce que la proportionnelle doit être un objectif pour le second mandat, s'il y en a un? Parce que ça a été une promesse, ça a été repoussé. Et quand on a des verts avec un certain score, est-ce que c'est possible de continuer comme ça? Comme Mitterrand disait pour son deuxième septennat, il n'est pas sain qu'un seul parti gouverne.
Je le pense.
Donc vous êtes pour la proportionnelle?
Non, mais je suis pour une dose de proportionnelle. Et c'est bien aussi d'avoir des réponses courtes, des fois, j'approuve la question qui m'est posée. Je pense vraiment qu'il nous faut de la proportionnelle et une représentation plus conforme à la réalité politique qui existe. Et en même temps, je ne souhaite pas avoir l'instabilité qu'on a connue sous la 4e République. On a bien vu, sur ces 15 dernières années, les crises que nous avons traversées. Et nos institutions et la stabilité de nos institutions permettent à un président de la République, quel qu'il soit, je viens de parler des 15 dernières années, aussi d'incarner cette stabilité, de protéger la France.
Alors, pour prolonger, est-ce que vous pensez qu'il faudra aussi porter des réformes constitutionnelles pour faire un peu plus respirer cette 5e République où, au fond, tout le bilan se fait sur la verticalité, l'homme solitaire, et où on voit que les challengers sont beaucoup sur ce créneau de « il décide tout seul et plus rien n'existe autour de lui ».
Et où le Parlement, que vous représentez ici, est souvent présenté comme une espèce de chambre d'enregistrement des décisions de l'exécutif.
Il y a deux choses. Il y a les caricatures qui sont faites, y compris sur cette accusation du Parlement, et je vous assure que ça n'est pas le cas au quotidien. De toute façon, ceux qui théorisent ça sur les plateaux sont ceux qui sont jamais dans l'hémicycle, sauf qu'ils viennent quelques minutes faire une capsule vidéo et qui repartent après. Mais n'empêche, et je reprends votre question, je pense que notre système démocratique aujourd'hui est usé et qu'il nous faut lui donner de l'air, qu'il faut donner de la souplesse. Regardez la question du RIP comme à la montée du référendum d'initiative populaire pendant les manifestations des Gilets jaunes. Au fond, d'un coup, c'est venu. Et oui, c'est un besoin. Aujourd'hui, il y a une défiance vis-à-vis des sachants. Vous rappelez que j'ai été élu maire de Fort-Calquier quand j'ai été élu maire en 2001. Si je devais abattre un arbre, tout le monde pensait que c'était logique parce que l'arbre était malade et vieillissant et qu'il menaçait les enfants qui passaient en dessous. Quand j'ai quitté mon mandat de maire en 2017, mes services savaient que avant d'abattre un arbre, il fallait faire de la communication, voire même une réunion publique, parce que j'étais considéré comme un assassin d'arbres. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il faut prendre le temps. Et prendre le temps, ça se fait sous plein de formes, les conventions citoyennes, les réunions publiques, et pourquoi pas aussi des référendums qui peuvent être organisés et multipliés sur plein de sujets. Moi, je pense vraiment que nous devrons non pas changer la 5e République, mais lui donner un souffle, une proximité, travailler sur les différents échelons. J'étais le ministre de l'Intérieur en gestion de du premier Covid. J'ai théorisé le couple. Je est possessif et un peu peu modeste, mais j'ai théorisé le couple préfet-maire. Parce que je disais au préfet, tous les soirs, sur chacune de vos décisions, construisez un consensus avec les maires du territoire, parce qu'on a besoin d'eux. Je pense que cette modestie aussi pour l'État, elle est indispensable dans ce rapport avec les collectivités locales. Mais les collectivités locales aussi doivent s'interroger. Quand on voit le chiffre de participation aux élections régionales et aux élections départementales, on voit une chose, c'est que les présidents ou présidentes sortants ont super bien communiqué sur leur personnalité. Pas sur leur région et pas sur leur département.
Vous avez été ministre de l'Intérieur cet après-midi. Il y a le grand meeting d'Éric Zemmour. On annonce des manifestations antifa contre la présence de ce meeting, la tenue de ce meeting. Comment doit réagir la République face à ces dangers et lequel est le plus dangereux, le plus grave selon vous ?
Vous savez, je pense que les idées d'Éric Zemmour sont graves, sont condamnables et ont souvent été condamnées d'ailleurs. Mais par contre, je pense que dans une démocratie, elles ont le droit de s'exprimer. Et je ne suis pas favorable à ces mobilisations qui cherchent à empêcher. Et cet après-midi, le ministre de l'Intérieur va mobiliser des forces pour protéger ceux qui viennent à ce meeting. Et c'est normal, c'est cela la République. Soit on considère qu'il n'y a qu'une ligne politique qui peut s'exprimer et toutes les autres sont condamnables, mais ça s'appelle une dictature. Et il faut assumer que nos adversaires politiques puissent porter une parole et allons-nous sur le champ politique pour la contester cette parole. Il y a une discussion cette semaine sur une proposition de résolution portée par le groupe GDR sur le fait d'interdire à un candidat condamné pour xénophobie de se présenter à la présidentielle. Nous ne l'avons pas voté pour plein de raisons, y compris parce que M. Zemmour a un procès qui est pendant et que ça aurait été une façon de faire pression sur la justice que de voter cette résolution. Mais moi, je veux dire, je ne veux pas laisser au juge le soin de décider qui peut se présenter à
une
élection.
Il est souhaitable qu'il laisse 500 signatures parce que la question se pose. Depuis la publicité des noms, il est possible qu'il ne les recueille pas. Est-ce que ça serait un déni de démocratie s'il ne les avait pas ?
Ce n'est pas un déni de démocratie, parce que la démocratie, c'est la Constitution. Mais je ne trouverais pas normal qu'il ne les ait pas. Ensuite, ne me demandez pas de demander à mes amis maires de donner leur parrainage à Éric Zemmour. Mais objectivement, je pense que ce système, qui est un système de tri pour éviter que n'importe qui fasse n'importe quoi et se présente à la présidentielle, était opportun à un moment donné, peut-être qu'on peut le réinterroger.
Pour ressembler à quoi ? Vous avez quelques idées ?
peut-être, non, ben, on prendra le temps d'y réfléchir, mais peut-être qu'effectivement aujourd'hui, on peut, Jean-Luc Mélenchon avait fait ça, mais peut-être un peu trop modestement sur le nombre de soutiens numériques qu'il l'a sollicité. Mais effectivement,
150 000, il avait dit, c'est ça.
Voilà, on pourrait avoir un système ambitieux. Les formes aujourd'hui de démocratie peuvent changer, et la question d'une mobilisation citoyenne à travers le numérique peut aussi être un référent utile.
Dans une heure, justement, Jean-Luc Mélenchon prendra la parole à la Défense. Est-ce que vous allez regarder avec autant d'attention son meeting que celui d'Éric Zemmour?
Je pense que je ne regarderai aucun des deux cet après-midi, parce que c'est dimanche après-midi.
Vous faites quoi le dimanche après-midi plutôt que de regarder les meetings? C'est quand même votre métier, non?
Non, mais je blague. D'abord, je vais me reposer de cette émission et de la préparation de cette émission. Laissez-moi un peu de temps tranquille. Et ensuite, oui, je vais vous dire la vérité. Je regarderai les deux et j'essaierai de voir les deux. Et ce que je n'aurais pas vu, je le regarderai cette nuit en décalé.
Vous allez passer une bonne nuit.
Merci. Ça va être super.
Merci beaucoup, Christophe Castaner, de nous avoir accompagnés en direct jusqu'à 13h. Merci Nathalie, merci Françoise, merci Karine, merci Alexandra. Je remercie beaucoup de merci également Alexandre Gilardi et Jean-Philippe Ballas pour la préparation de cette émission. Laurent Baudouin et André Yanos étaient à la réalisation. On se retrouve dimanche prochain, midi pile en direct, pour un nouveau numéro de Questions Politiques.